1968. Avant l'explosion du mois de mai, la France s'ennuyait. C'est ce qu'écrivait un éditorialiste du Monde. Il oubliait les nombreuses manifestations contre les guerres d'Algérie, puis du Vietnam, qui égrenèrent toute la décennie. Et pas seulement en France. Aux USA même, la guerre soulève les étudiants. Les désertions sont nombreuses, les manifestations sont durement réprimées. L'assassinat de Martin Luther King en avril 68 met le feu au ghetto noir. En Allemagne, la jeunesse s'oppose à l'alignement derrière les États-Unis. À l'occasion de la visite d'un dictateur, le Shah d'Iran, la police tire et tue un jeune manifestant. Et en avril, l'agression contre Rudi Dutschke, leader des jeunes contestataires par un militant d'extrême droite, met là aussi le feu aux poudres. Au Japon, les Engakuron, étudiants organisés sous l'égide du Parti communiste et de minorités trotskistes, affrontent la police en véritable bataille rangée. Ils protestent contre l'implantation de bases américaines. Ces vagues de protestation prennent en France un tour particulier. Emportée par les soulèvements étudiants, la classe ouvrière déclenche la plus grande grève générale de son histoire.
Que sera 1968 ? L'avenir n'appartient pas aux hommes et je ne le prédis pas.
La grève générale de 68 n'a pas éclaté dans un ciel ouvrier serein. L'année précédente est jalonnée de grandes luttes, d'autant plus spectaculaires qu'elles rompent avec plusieurs années de quasi-passivité. Il y a bien des journées d'action, mais sans lendemain, et les syndicats, comme paralysés, se refusent à affronter ce qu'ils appellent le pouvoir fort gaulliste, au point de ne pas manifester à Paris les 1er mai.
Elle monte des usines, la colère, quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines.
Mais après presque 10 années de gaullisme, le mécontentement est fort dans la classe ouvrière. En février 67, à Besançon, les 3000 ouvriers de la Rodia Ceta occupent l'usine. En mars, à Saint-Nazaire, les mensuels des chantiers navals font 63 jours de grève pour les salaires. La direction, au bout de 20 jours, lock-out les ouvriers et ferme les chantiers. Un peu partout, de nombreuses grèves éclatent. À Berlier-Vénissieux, à la Savième, à Caen. Cette combativité va au-delà de la métropole. En mai 67, la colère touche la Guadeloupe. La mort de plusieurs ouvriers assassinés par la police provoque des émeutes.
La violence est partout, vous nous l'avez apprise, patron qui...
Cette remontée des luttes ouvrières amène le journal Voix ouvrière à écrire le 4 avril 1967 « La classe ouvrière passe-t-elle à l'offensive ?» Un an plus tard, on avait la réponse. Le 3 mai, la police évacue la Sorbonne et arrête des étudiants. Le quartier latin s'enflamme et affronte la police. Libérez nos camarades ! Pour la première fois, le pouvoir paraît faible. La classe ouvrière, surtout les jeunes, regarde et s'enthousiasme.
Dans nos têtes, en fait, ça commence un peu à discuter entre nous après le travail. On est 5 copains et on va au café, on va jouer au baby et en même temps, on discute pour la première fois un peu de ces choses-là.
Quand il y a eu les manifs avec les CRS qui attaquaient les étudiants, ça choquait beaucoup les collègues.
À l'usine, on était sensibilisés quand même, comme tout le monde, à ce qui se passait au quartier latin. Mais en plus, il y a eu un jeune technicien qui s'est fait embarquer au quartier latin vers le 3 mai et qui s'est chopé 2 mois de prison avec sursis. Mais ça fait que ça a sensibilisé d'une manière concrète.
Surtout parmi les jeunes ouvriers, mais aussi parmi l'ensemble des travailleurs, qui regardaient quand même de très près ce qui se passait. Ça commençait quand même à créer une certaine émotion.
Ils n'ont pas peur, ils se heurtent aux flics, ils ne se laissent pas faire. Ça marquait les gens quand même, hein, parce que nous, on nous disait toujours que c'était un pouvoir fort, qu'on pouvait rien faire, et puis on voyait que les étudiants, quand même, ils manifestaient, ils se faisaient entendre quand même.
Il y avait des étudiants à Jussieu. Au bout de quelques jours, on a fini par se parler. Au début, c'était difficile, on ne les comprenait pas. Et un bon jour, on s'est rempli les poches de boulons et on est parti à la Bastille. Et là, évidemment, on s'est battu à coups de boulons avec les CRS. C'était en même temps, on était joyeux de le faire. On était contents, on s'était battu et ça valait le coup, quoi.
Mai 68 m'a surprise complètement, complètement. Alors, bien sûr, on en parlait avec les collègues, on allait à Saint-Michel, mais surtout à la sortie du boulot, puisqu'on travaillait. Et quand il y a eu, je ne sais plus quelle date, là où les CRS ont été le plus véhément et répressifs, là, on a été tous indignés, hein, tous indignés. Et solidaire en même temps.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y avait que la radio, hein, qui nous informait.
Alors, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Ce
oui.
sont des espèces de grenades qui ont pour but d'incendier les barricades.
Et on avait l'oreille collée à la radio, les militants, et on bouillonnait, quoi, de rentrer dans la danse.
Nous, les employés du Crédit Lyonnais, on l'a appris par la radio, tout bêtement. Et c'est vrai qu'avec mes camarades de Voix ouvrière, on est allé quand même assez vite voir ce qui se passait au Quartier Latin. Et quand la Sorbonne a été réoccupée par les étudiants, Voix ouvrière, comme les autres groupes révolutionnaires, avait une table, tenait des débats. Et on y est allé voir, évidemment, même avant nous d'être en grève.
C'est les étudiants, la détermination des étudiants qui nous a amené à prendre position réellement pour la grève. Et ça a passé par-dessus la tête de l'appareil PCF-CGT, c'était mieux.
Après la nuit des barricades, les syndicats appellent à une manifestation le 13 mai. Des centaines de milliers de travailleurs dans la rue prennent conscience de leur force. Leur ras-le-bol s'exprime. 10 ans, ça suffit, clament-ils.
10 ans, ça suffit, 10 ans, ça suffit, 10 ans, ça suffit, 10 ans.
Dès le lendemain, à Sud Aviation Nantes, les travailleurs arrêtent les machines, suivis le 15 par ceux de Renault Cléon. Une étincelle qui mettra le feu aux poudres.
Le 13 mai, c'était un succès extraordinaire. Moi, c'est à partir de là, le climat a considérablement changé. Ça, c'était une évidence.
Vous n'avez qu'à demander un jour au comité d'entreprise qui vous envoie dans les endroits où ils montent les 4L. Puis vous verrez les boyaux où les gars ils sont obligés de passer 8 et 9 heures par jour.
Ils ont pas
là pour des petits salaires de misère, des salaires de misère. Alors c'est normal que maintenant, il y a des gens qui veulent se révolutionner, c'est normal, c'est tout à fait logique.
Pour le déclenchement de la grève de mai 68, j'étais pas là, j'étais une semaine en stage. C'est lorsque je suis revenue que j'ai retrouvé mes collègues complètement différents de lorsque je les avais quittés, parce que là, effectivement, ils parlaient de faire la grève. La grève générale, c'était vraiment dans les têtes.
Je pense que c'est parti de la base. On a téléphoné dans notre bureau en nous disant « Dépêchez-vous, ici à la Grande Tôle, ils font la grève. Allez dans tous les coins de votre secteur et dites-leur de sortir. » Et en fait, quand je suis arrivée ici, tout le monde sortait de tous les coins. Je suis arrivée au bureau syndical, tout le monde était un peu dépassé par tous ces gens-là qui sortaient.
En fait, on travaille peu. Et les autres nous écoutent, les autres donnent leur point de vue en disant « Oui, mais où c'est que ça va mener? Qu'est-ce que ça va mener? » Et nous, on dit, on ne sait pas où c'est que ça va mener, mais de toute façon, une chose est certaine, c'est qu'il y en a un peu ras-le-bol de tout ça, et puis tout le monde s'y met, ça vaut peut-être le coup d'y aller.
Des gens sympas, mais qui ne faisaient pas grève, qui là, étaient à la manifestation du 13 mai. Et là, c'était Enfin, c'était la grande manifestation et les collègues qui étaient, elles étaient contentes. Hein, le lendemain, au boulot, elles étaient contentes d'y avoir été, quoi.
Moi, je me souviens vraiment du groupe de jeunes qui circulaient. C'était d'écouter la radio, de savoir point par point quelle usine s'y mettait et puis comment nous, on pourrait essayer de se joindre à ce mouvement.
Même si les gens de l'usine n'y ont pas participé beaucoup à cette manifestation, c'était quand même le grand début de quelque chose pour eux.
Je me souviendrai toujours, il y a eu la majorité pour rentrer dans la grève, hein, et il y a eu six militants qui ont voté contre, et c'était, comme dit l'Est républicain dans son recueil, c'était des gars les plus durs du PC.
Bah, comme les syndicats ne décidaient pas, finalement, 7 jours après le 13 mai, enfin 6 jours, quoi, le 20 mai au matin, on s'était donné rendez-vous à une petite vingtaine des militants de Voix ouvrière et quelques sympathisants avec quelques drapeaux rouges et on a décidé de mettre l'entreprise en grève. Notre grand bonheur et peut-être un peu notre grande surprise, bah, les gens ont suivi. Et là, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que d'abord, moi je suis montée sur ce que j'ai pu pour haranguer tout le monde et dire que ça y était, il fallait qu'on se mette en grève. Il y a les syndicalistes, en particulier de la CGT, qui étaient assez mauvais de ça, ont commencé à essayer de m'empêcher de parler. Mais j'étais soutenue par mes camarades et ils n'ont pas pu m'empêcher. Cela dit, ils ont fait un boulot de sape autrement, parce que nous, on voulait rester là, occuper l'entreprise avec tous les gens qui étaient là, et pas seulement les délégués, et eux, ils en avaient décidé autrement.
Dès le jeudi qui a suivi le 13 mai, hein, il y a effectivement des jeunes, surtout des ateliers de professionnels, des secteurs de professionnels, et qui scandaient occupation, occupation, occupation. Aimé Albeher, le secrétaire de la CGT de Renault de l'époque, qui une fois qu'il a vu effectivement que les ateliers commençaient à être occupés, a décrété l'occupation. En réalité, ils étaient contre, mais à partir du moment où ça s'est fait, et bien là, ils ont pris les choses en main, effectivement.
Du coup, au bout d'un moment, quand même, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester en dehors du mouvement, parce que le personnel restait, ne semblait pas avoir l'intention de retourner au boulot. Donc là, la CGT, la CFDT ont appelé à la grève.
Les organisations syndicales nous ont réunis dans la cantine. Il y avait environ 2000 personnes qui étaient là. Bon, finalement, assez contente de se réunir parce que bon, ils sentaient qu'il allait se passer quelque chose. Surtout le gars de Force ouvrière qui était militant de l'OCI, il a fait voter la grève. Bon, bah, les gens, ils ont voté comme la grève comme un seul homme. Et puis après, donc lui, il est intervenu en disant bon, bah, voilà, maintenant il y a la grève, et bah, nous, on s'occupe de tout. Hein, rentrez chez vous, nous on s'occupe de tout.
C'est les gauchistes, ils sont fous, ils veulent occuper l'entreprise, mais une banque, on ne peut pas occuper une banque comme ça, vous voyez, une banque c'est trop grave. Donc c'est aux organisations syndicales de s'en occuper, et vous devez rentrer chez vous, on s'occupe de tout. Nous, on n'a pas bougé, on a pique-niqué, on a mangé des sandwichs, et on avait fait notre cahier de revendications et on comptait bien dormir là et rester là. Et la CGT était toujours là. Au bout d'un moment, on a vu la CFDT quitter les lieux, un peu hypocritement. La CGT est restée jusqu'au bout, enfin les principaux délégués. Et puis d'un seul coup, on a vu une porte s'ouvrir et une centaine de cadres de direction sortir comme un commando militaire. Et comme on était 25, nous prendre à 3 contre 1 et à nous virer vraiment manu militari en dehors de l'entreprise.
Personne ne disait aux gars, rentrez chez vous. Mais les gars, la première journée ou la deuxième, ils se sont rendus compte, bon, on n'a pas besoin d'aider, parce qu'il y avait des milliers, pas besoin d'être des milliers pour garder les machines et puis l'usine, c'était mieux. Ça arrangeait bien l'intersyndicale, c'était mieux, tu vois. Après, ils disaient, vous voyez bien, les travailleurs, les travailleurs, ils vont plutôt bêcher leur jardin que de prendre les affaires en main.
De temps en temps, ils disaient à des gars, tu devrais rester, mais ils n'ont pas vraiment fait d'appel général en insistant pour que les gens occupent.
Dans l'enthousiasme, dans quelques entreprises, les travailleurs en profitent au contraire pour prendre en main leur grève, sous diverses formes et dénominations issues de leurs initiatives. Comités de grève, d'action, mais ils restent minoritaires.
L'occupation de l'usine Rhône-Poulenc en 68 est quand même marquée par une organisation un peu particulière, à savoir qu'on a organisé des comités de grève, c'était des comités de base. C'était pas comité de grève comme on l'entendait, mais on faisait de la propagande beaucoup pour dire il faut que les travailleurs s'organisent par eux-mêmes, donc c'était l'idée principale. Donc on se réunissait effectivement tous les jours, les comités de base, où on discutait de tous les problèmes, et ces comités de base, on avait élu plusieurs salariés pour se réunir en comité central de grève.
Et à côté de cela, il y avait un comité exécutif qui était une intersyndicale finalement, et ça c'était ce que souhaitait la CGT, pensant que c'est à travers ce comité exécutif qu'elle pourrait diriger la grève comme elle l'entendait.
Alors ce qu'il y a eu de particulier au CELUCLAF, c'est bien sûr il y a eu un comité de grève, mais il y a eu surtout aussi une occupation réelle de centaines de travailleurs. Le comité de grève s'est mis en place le premier jour, on va dire, parce que le premier jour, il y a eu une grande AG de 1000 à 1500 personnes. On a fait voter la grève, tout le monde a voté pour, tous ceux qui étaient là, les 1000 ou 1500, je ne sais pas exactement. Et il y en a un ou deux qui ont voté contre, on leur a dit de sortir. Entre autres, il y avait le chef du personnel. Et là, on a proposé de créer un comité de grève. Alors, on avait contacté quand même une dizaine de travailleurs, de collègues, pour leur dire qu'on allait faire. Et quand on a proposé, eh bien, il y a eu une cinquantaine de mains qui se sont levées. Et puis après, on a fait voter par l'Assemblée Générale ce comité de grève.
Tout le monde s'est rendu au réfectoire. C'est la première année où j'étais délégué du personnel. Et tout le monde s'est rendu au réfectoire. Et au réfectoire, moi j'avais bien appris ma leçon, il fallait créer un comité de grève. Donc je dis, qui sait, il faut créer un comité de grève, qui sait qui est pour. Et là, il y a 30 et quelque chose de mains qui se lèvent. C'était plutôt un comité d'organisation de secteur. C'est pas pareil. Tu comprends?
Il y avait quand même des militants du Parti communiste qui étaient là et qui n'étaient pas du tout partants pour un comité de grève. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont été quand même... je ne vais pas dire surpris, c'est qu'eux, ils n'y croyaient pas tellement à la grève. Parce que quand on a fait l'appel intersyndical, ils n'étaient pas pour. Et c'est parce qu'on a dit que nous, on allait appeler même tout seul, FO, parce qu'on était un animal syndicat FO à l'époque. Bon, ils se sont ralliés. Alors, ils ont été peut-être un peu surpris de la réussite. Et puis devant, quand ça a été proposé, c'est une copine qui a proposé le comité de grève, devant 1500 personnes, c'est difficile de dire ben, nous on n'est pas pour, surtout quand il y a une cinquantaine de mains qui se lèvent.
Nous on a appelé, Henri il a appelé à former un comité de grève. Bon ben c'est là que les staliniens l'ont boosté. D'abord ils lui ont coupé le micro, donc il a continué à parler sans micro, et c'est là qu'il y a eu des coups qui sont partis, qui lui ont cassé. Qui l'ont bousculé, lui ont filé des coups. Moi, j'ai essayé de m'interposer, j'ai dû prendre une baffe, j'ai pris un coup dans la figure.
Le comité de grève, il prenait la parole, c'était pas spécialement toujours le même. Les syndicats prenaient la parole, les grévistes qui voulaient prendre la parole, ils prenaient la parole. Mais en général, pour les trucs un peu importants, les décisions un peu importantes, il y avait des votes.
Les appareils syndicaux, en particulier la CGT, courroie de transmission donc du PCF, c'est pas, je reproche pas ça, qui était quand même, mais il nous amenait, il disait, oui, il y a ceux qui sont pour l'insurrection, puis ceux qui sont pour la légalité. Alors que le problème, il n'était pas à ce moment-là, Il ne s'agissait pas d'insurrection. Hein, il s'agissait, pour nous, voix ouvrière, que la classe ouvrière puisse faire un bond en avant dans l'organisation et de voir en marchant jusqu'où ça pouvait aller.
Quand tu as des centaines de personnes qui font des qui sont là, ils ont des initiatives. Un truc qu'ils ont fait qui était bien, comme on était la grosse boîte de Romainville, il y avait plein de petites boîtes qui voulaient se mettre en grève. Alors il y a des gars qui venaient demander de l'aide. Ils venaient m'aider, le patron il nous fait chier, il veut pas fermer la boîte et tout. Et tout de suite il y avait 10 ou 20 gars qui y allaient, sans brassard, hein, sans... c'était pas... et qui allaient pour aider, pour fermer la boîte.
Dès le début de l'occupation, surtout les jeunes, c'était extraordinaire. Moi je me souviens très bien, c'était les premières rondes qu'on a fait la nuit. Il y a vraiment l'impression que l'usine était à nous.
Le comité d'organisation du secteur Tôlerie Sud a pris au moins deux initiatives d'aller voir des autres entreprises pour les mettre à l'arrêt. Une, c'était à Japy, mais à Japy, c'était une majorité de travailleuses qu'il y avait. Elles étaient déjà en train de danser, elles étaient déjà arrêtées. La seule chose qu'ils nous ont demandé de faire, c'est à côté de l'usine, il y a un château, les Japis, et le directeur aux pigeonniers, il se foutait un peu de leur gueule. Il dit, ça ne peut plus durer comme ça, il faudrait qu'on l'envahisse. On a envahi le château, et puis voilà. Et puis le deuxième, c'était une fonderie d'un autre âge, du Moyen-Âge. On était obligé d'escalader les grilles. Et quand on arrivait de l'autre côté, il y avait le patron et puis un garde de corps avec un revolver, si c'était mieux. Là, on n'a même pas pu aller voir les gars, on était obligé de ressortir. Quoi.
Et puis une anecdote que j'aime bien raconter, c'est à l'entrée de l'usine 4, il y a une rotonde en verre, c'était le QG des flics. Mais des flics assez détestés, tous des anciens militaires, des surveillants, et leur boulot c'était de patrouiller dans les vestiaires partout pour choper les mecs qui n'étaient pas au boulot. Et puis, quand ils faisaient un rapport, tu pouvais être licencié. Alors ils étaient retranchés dans leur rotonde, et spontanément, il y a des dizaines de grévistes qui sont rentrés dans cette rotonde, on s'est retrouvés comme ça. Et puis on pousse sans leur taper dessus, hein, parce qu'on ne savait pas comment ça pouvait tourner. En les poussant, on les a poussés sur les bords de ce local. Et puis à un moment, un gréviste criait « on tourne ». Alors tout le monde se mettait à tourner. Et puis quand un des flics il arrivait devant la porte, ouverte, tout le monde poussait, sans violence. Et puis il y avait des centaines de grévistes qui applaudissaient à chaque fois qu'il y en avait un qui se faisait éjecter.
La préoccupation des filles et de mon service, c'était de se dire, on va recevoir le jour de garde des patients, où allons-nous les mettre, hein, où allons-nous les mettre? Et surtout, elles s'attendaient, les plus anciennes, à ce que la police rentre dans le service. Les filles, elles avaient décidé, et celles qui avaient décidé, que les flics, que les malades seraient mis sous X, et que les flics ne rentreraient pas dans le service, c'était les filles du PC. C'était elles.
Un jour, on a vu un étudiant un peu plus amoché qu'on a dû hospitaliser et qu'on a gardé, alors sous X, ils étaient inscrits sous X. Et quand un jour, un monsieur, je vous ai très monsieur, nous dit « voilà, je cherche monsieur machin, et je suis voisin de palier, sa mère est un peu âgée, elle m'a demandé de le chercher, elle est très très inquiète, est-ce que vous l'avez, etc. » Et unanimement, on a répondu non, on avait tous senti le flic.
Moi, j'étais au centre de recherche, il y avait tous les animaux sur lesquels on essayait, il y avait des expériences, des essais sur les animaux. Ces animaux, il fallait les entretenir, leur donner, les nourrir, nettoyer. Et donc ça, on a décidé dans le comité de base de continuer et donc d'élire des volontaires pour faire ce travail. Et ça s'est fait pendant toute l'occupation, pendant les 3 semaines de grève.
À partir des accords de Grenelle, la direction elle a été offensive, bien sûr. À un moment, elle a organisé une grosse manifestation, elle a ramené peut-être un millier de personnes, d'ailleurs je ne sais pas d'où ils sortaient, il y en a qui devaient venir certainement même d'autres usines. Alors ce qui est marrant là, c'est qu'ils sont venus manifester pour, face à l'occupation et tout, et on avait monté, on avait une lance incendie avec montée sur un surpresseur qui portait à 100 mètres. On avait fait des essais devant tout le monde, publiquement, tout le monde savait que ça portait très loin. Et moi, j'étais sur le toit avec d'autres, et il suffisait de sortir un petit peu la lance à incendie de ça, et d'en haut, tu voyais la moitié des manifestants qui commençaient à se barrer, tu voyais qu'ils n'étaient vraiment pas déterminés. D'ailleurs, ils disaient qu'on avait branché les lances à incendie sur de l'acide. Ce qui était faux, c'était de l'eau.
Dans ce bouillonnement, on découvre la vertu des échanges d'idées, des discussions fraternelles et passionnées, des remises en cause. Tout y passe, et surtout le capitalisme. Une véritable ébullition dont le seul but est refaire le monde.
Les témoins de mai 68, mai juin 68 peuvent dire, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une envie de discussion, une envie d'information, les tracts s'arrachaient, on faisait des vrais meetings, des vrais forums de discussion.
Je me rappelle, on avait donc Voix ouvrière, on avait nos journaux qu'on vendait sur le boulmiche, et dès qu'on sortait nos journaux du sac plastique, il y avait déjà 10 personnes autour de nous qui venaient, qui se précipitaient pour l'acheter. Et pas seulement notre journal, mais il y avait le journal Action, le journal de l'UNEF. Bon, il y avait les journaux gauchistes, ça se vendait comme des petits pains, et il y avait des tas de discussions, et ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'était... bon.
Ces jeunes qui ne supportaient pas la chape de plomb qui était un petit peu imposée par les dirigeants de la CGT ou du PCF, bon, ils regardaient un peu ailleurs, quoi. Ils allaient au quartier latin, dans les manifestations qui se déroulaient au quartier latin, et ils se retrouvaient avec les étudiants pour participer aux manifestations.
68, pour moi, je ne l'ai pas vécu sur les chantiers pour la bonne raison que il n'y avait plus de transport, il n'y avait plus rien. Et du coup, il faut dire que je ne cherchais pas tellement à faire du stop pour aller bosser, mais pour aller au centre de Paris voir ce qui se passait.
Le vendredi 24 mai, à Loches, il y a une manifestation qui a été organisée. On s'est retrouvé quand même à 600, entre 600 et 800, qui est beaucoup. C'était une des premières manifestations aussi importantes, hein. Et puis ce qui a été surtout impressionnant, enfin pour moi, qui était pour ma première manifestation, c'était de voir les maçons qui étaient dans les échafaudages et qui descendaient pour venir, qui lâchaient les truelles, tout ça, ils descendaient, et ils sont venus à la manifestation avec nous jusqu'à la sous-préfecture.
Dans l'ensemble, il y avait une vie à l'hôpital qu'on sentait bien, une vie, une activité différente d'habitude, une joyeuseté différente. Et ça, c'est vrai.
Il y avait comme une espèce de fraternité qui s'était établie. Il y avait un air qu'on respirait, libre et joyeux. Et puis, on était content de faire ce qu'on faisait, de pouvoir protester, de pouvoir dire ce qu'on avait dans le cœur, pas seulement par rapport à Verger Delporte, mais en général.
Les premiers moments de l'occupation, bon, comme on allait donc y dormir, on s'est chacun choisi un petit peu ses secteurs. Moi, peut-être symboliquement, j'avais choisi le bureau de mon directeur, hein, qui était assez spacieux. Là, j'avais installé un drapeau rouge. Mais bon, tous les grévistes n'en étaient pas au même niveau, et certains voulaient enlever le drapeau rouge qui a disparu, que j'ai retrouvé, que j'ai remis. Bon, et puis finalement, les drapeaux rouges sont restés un peu partout dans l'usine.
Je suis garçon de café, je viens de mettre d'hôtel. Eh bien, on n'avait plus le goût, quand vous avez fait 12 heures de travail, d'aller prendre des cours à la Sorbonne. Non, c'est pas vrai.
À l'Odéon, on refaisait le monde. Enfin, les étudiants, il y avait toutes sortes de gens, quoi. Moi, j'écoutais, je me disais, mais de quoi ils parlent? De la mort? ça avait duré, il y avait un topo sur la mort qui avait duré des heures. Je ne comprenais pas qu'on puisse parler de la mort, mais enfin pourquoi pas.
Les chèques postaux étaient en grève et que tout le monde était en grève. Enfin, là, on a conclu quand même une chose, c'est que quand on est tous en grève, ils ne peuvent même pas nous piquer notre pognon. C'est quand même bien, hein.
Les femmes ne sont pas en reste. Jusqu'alors considérées comme des mineures et reléguées au second plan dans la société, elles prennent toute leur place dans le combat. Et dans la grève, elles sont à égalité.
Les médecins qui arrivaient, les mandarins avec la petite surveillante générale qui courait derrière, ils ne nous parlaient pas. Si bien qu'un jour, il me voit, donc on était en blouse hein, à l'époque, pas en casaque, et je mettais des chaussettes hautes, des roses, des vertes. Et il a vu ça, il ne m'a rien dit. Il est allé le dire à la surveillante générale, vous direz à cette infirmière que c'est inadmissible, etc. Je les ai gardés. Hein.
Le motif principal de l'exclusion, c'était... Bien sûr, l'appartenance à vos ouvrières, d'être gauchiste, le reproche suprême, c'est d'avoir osé passer des nuits à dormir avec des jeunes gars qui occupaient hein, dans leur bureau, enfin de passer la nuit dans leur bureau, avec eux et à écouter, à jouer de la guitare, et ça, c'était ça se faisait pas.
Madame Suzanne, tout le monde en avait une trouille terrible. Elle était extrêmement mince, très longue, très grande et très autoritaire. Tous les samedis matins, elle nous faisait mettre en file indienne. C'était un gros service, c'était la clinique femme qu'on appelait ça. C'était un service de recherche asilaire, la clinique femme. Elle nous mettait à la queue leu-leu. D'ailleurs, les filles le faisaient d'office. Elle se mettait à la queue leu-leu, donc moi on m'a fait signe de me mettre à la queue leu-leu comme tout le monde, et là elle donnait une part de gâteau à chacune d'entre nous, celle qui avait été bien sage pendant la semaine. Donc quand tu arrivais devant elle, elle disait « pas toi aujourd'hui ».
On n'avait pas le droit d'avorter, on n'avait pas le droit à la pilule, on n'avait même pas le droit de faire de la publicité pour la pilule.
Moi j'avais une revendication simple, moi j'étais pour le droit des femmes. Et ça, pourquoi ? Le droit des femmes, pour moi, j'en avais assez de voir des femmes mourir d'embolies graisseuses dans mon service, hein, ou bien même des collègues d'entre nous qui se faisaient avorter, qui faisaient embolies graisseuses. Donc, je prêchais pour la contraception.
Je finissais à 22h, et donc je rentrais à pied, et je passe boulevard Saint-Michel, arrivé au Luxembourg, plus exactement, je descendais le boulevard Saint-Michel, il y avait des CRS tout le long. Luxembourg, Saint-Michel, ça fait je ne sais pas combien, mais ça fait beaucoup de temps, surtout quand ces CRS m'ont traité de salope, putain. Alors la pute, t'as bien baisé, c'était bien, salope. Et du coup, ils se les tous, ça faisait... horrible. C'était horrible. C'est arrivé, j'avais la rage, et j'ai rien dit bien sûr, parce qu'ils attendaient que ça, j'imagine.
Avec 68, les rapports entre les garçons et les filles, c'était beaucoup plus libre, on n'avait plus peur, on pouvait discuter avec un garçon sans se faire remarquer outre mesure, quoi. Alors qu'avant, quand une fille des bureaux discutait avec un gars des ateliers, alors là, tout le monde la regardait... Et après 68, ça au moins, on a gagné quelque chose. Là.
Oui, les rapports entre les hommes et les femmes, enfin au moins pour quatre d'entre nous, parce qu'on en a beaucoup discuté pendant entre nous quatre, de cette affaire, parce qu'on avait beaucoup de copines, on sortait beaucoup, mais on les respectait, mais pour nous c'était comme à la maison, comme chez nous. C'est-à-dire, la femme a fait le ménage, a fait tout ça, mais on ne s'était jamais posé la question. Et le fait qu'on voit les femmes, les filles avec nous, qui participent avec nous au mouvement, qui viennent aux réunions, qui ont des choses à dire, eh bien, effectivement, ça, enfin, au moins pour quatre d'entre nous, eh bien, ça a changé. Parce que nos rapports après ont été différents, parce qu'on a vu qu'elles étaient des femmes, mais elles avaient aussi autant d'idées que nous, et des fois même meilleures que nous.
Les syndicats essaient de faire reprendre le travail après Grenelle. Ainsi rassuré, De Gaulle appelle aux urnes. Avec la complicité des partis de gauche, les syndicats s'engouffrent dans le piège des élections.
Manipuler, recommencer Grenelle, vous ne nous tromperez pas, maintenant ça marche plus.
Suite à la signature des accords de Grenelle, on a compris que, enfin nous les militants, on a compris que les syndicats et la gauche avaient décidé de laisser tomber pour les élections que De Gaulle avait promis. Et ce qui s'est passé, bah, c'est que la grève a continué, mais c'était les mots d'ordre, c'était aussi bien du comité de grève que de FO même, et de la CGT aussi, c'était « il ne faut pas brader la grève pour un bulletin de vote » et des choses comme ça. Et c'était le sentiment vraiment de tous les grévistes.
Si la décision consiste à apprécier les résultats d'une façon positive, à moins que l'on estime pouvoir aller plus loin en ce moment, la reprise du travail ne saurait tarder.
Quand le gouvernement nous a demandé si, au terme de ces longs travaux de discussion, nous allions lancer l'ordre de reprise du travail, nous leur avons répondu comme nous n'avons jamais lancé à l'échelle confédérale un mot d'ordre de grève, il ne saurait être question que l'on se substitue aux travailleurs pour lancer un ordre de reprise du travail.
C'est dit en bon syndicaliste réformiste, avait réussi à retourner les choses, non pas à son avantage, mais avait déclaré en quelque sorte, bon, bah, puisque je vois que vous n'êtes que vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on continuera à discuter avec le gouvernement et le patronat, et la grève continue en quelque sorte, quoi.
Oui, il y a eu un peu de surprise pour ce que je me souviens, parce que au Parti communiste et à la direction de la CGT, on pensait que les choses seraient reçues de meilleure façon.
Il fallait à la fois décrocher le mouvement social du mouvement étudiant, et pour cela, il fallait faire en sorte que les syndicats aient des motifs de recommander la reprise du travail.
En fait, il s'agissait bien de discussions qui avaient abouti à ce que le gouvernement ait finalement l'aval des organisations syndicales. À partir de là, les confédérations essayaient de faire reprendre partout le travail, y compris en mentant, en expliquant par exemple aux travailleurs d'un dépôt de la RATP que ça avait repris dans le dépôt d'à côté, et quand on pouvait le vérifier, on s'apercevait que c'était pas vrai. Partout, ils ont essayé de dire, bah, maintenant, ce qu'il faut, c'est des accords d'entreprise. Donc, ils ont renvoyé, en fait, les travailleurs aux négociations d'entreprise, en fait, ce qui après faisait des grèves entreprise par entreprise et qui faisait perdre la force d'un mouvement d'ensemble.
Le lundi du 27, le responsable de l'union locale de Tours, il est venu à l'union locale de Loche. Et là, si tu veux, c'est pour nous dire que de toute façon, la grève elle est victorieuse, c'est grâce à la CGT que, bon, grosso modo, il faut arrêter la grève, et qu'on fait des luttes différentes.
Dans les coins, ils disaient, ah ben dis donc, tel service a repris, tel service va reprendre, etc. Ils montaient le bateau comme ça. Hein. Par exemple, la chirurgie a repris. Pourquoi la neurochirurgie qui était dans le plateau technique ne reprend pas? Qu'est-ce que c'est que ces mauvaises têtes? Voilà. Bon.
Après l'annonce par De Gaulle de la dissolution de l'Assemblée, de l'organisation de nouvelles élections, là, ça a été pire de la part des syndicats, surtout de la CGT, qui n'avait qu'une envie, là, c'est que ça s'arrête pour que participer aux élections et que la gauche ait plein d'élus et puisse battre la droite, etc.
Afin de lever tout équivoque quant aux objectifs qu'elle poursuit, la CGT déclare qu'elle n'entend gêner en rien le déroulement de la consultation électorale.
Hein, le grand Charles de Gaulle, il avait dissous l'Assemblée. Donc, il fallait aller aux urnes. Ça appartenait à la stratégie du Parti communiste qui, lui, voit pas les changements avec la force des travailleurs hein, dans la rue. Il voit les changements par les urnes.
Ils ont fini par mettre cette pression sur l'ensemble des travailleurs et par obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la reprise du travail, de façon à ce que leurs élections, hein, l'échange d'un mouvement gréviste contre un bulletin de vote illusoire, hein, rentre dans la réalité, quoi, en quelque sorte. Quoi.
Les quelques miettes accordées à Grenelle sont loin de combler les espoirs soulevés par la lutte. Pas surprenant que malgré les pressions, les manœuvres du PCF et de la CGT, les reprises du travail connaissent quelques oppositions.
Je pensais qu'on pouvait peut-être faire autre chose. On pouvait peut-être aller plus loin et tout. Et c'est en ce sens que je me suis senti frustré de cette grève. D'ailleurs, je l'ai dit au gars de la CGT en disant, moi je rends ma carte parce que je pense qu'on pourrait aller plus loin.
Il y a eu des moments où ils essayaient de reprendre et où des centaines de personnes ne voulaient pas rentrer dans l'entreprise. Je crois que la dernière AG qu'on avait fait devant l'entreprise, il y avait encore 700 personnes qui refusaient de rentrer.
Le 17 juin, c'est Aimé Albeher, qui était secrétaire général de la CGT, qui était d'ailleurs appuyé par Henri Krasucki, qui était présent, hein, qui a annoncé le résultat de la consultation et qui appelait donc à la reprise du travail. Et là, ça s'est passé de façon encore beaucoup plus conflictuel que lorsque Segui est venu annoncer les accords de Grenelle. Donc Albeher n'a pas pu lui non plus terminer son discours. Il a été traité de tous les noms, hein, de vendus, de traîtres, etc. Et je vous passe les noms d'oiseaux qui ont fleuri à ce moment-là, mais c'était assez vigoureux quand même. Et là, il y avait une très 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 forte minorité de travailleurs qui étaient absolument contre cette reprise. Et il y a même eu quelques bousculades, parce que bon, ça c'est... Les esprits se sont un peu échauffés.
Ceux qui se sont rendus compte qu'on les laissait tomber, c'est les gens de la base, c'est les gens dans les ateliers. Il y a eu du mécontentement, là oui.
La jeune ouvrière a pour interlocuteur deux membres du bureau local CGT de Saint-Ouen.
Alors, tes camarades, tout le monde a décidé de rentrer. Rentre avec...
Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas là-dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, il y a avec le patron, c'est tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
On va pas tout résoudre aujourd'hui. On pourra y arriver à l'imposer.
Bah, de toute façon, c'est fini, maintenant, on pourra plus rien avoir. C'est pas vrai, pas avec le patron, avec.
Il disait ça il y a trois semaines, étape, et plus un jour.
C'est une étape, c'est
ben
pas...
Ben oui,
hein, c'est pas fini.
Il sait bien ce qu'il a perdu, lui. T'as fait propre.
C'est pas fini, c'est une étape.
Lorsque nous avons entendu parler des événements qui étaient en train de se dérouler à Flins, c'est-à-dire que la direction voulait tout simplement faire occuper l'usine par les CRS...
faut qu'on lâche, c'est ridicule ce qu'on lâche en ce moment. À bout de 3 semaines qu'on s'est bagarré là, alors faut qu'on lâche. Moi je lâcherai pas premièrement. Mais même tout seul, je lâcherai pas.
Allez, les essuie-glaces, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont mis encore de l'éponette, ceux-là. Hey, t'as oublié tes essuie-glaces?
C'est pas des goustiques, le mec.
Pourquoi vous venez aujourd'hui avec des fusils, des matraques? Nous sommes les mains vides.
Mais bon, ça n'a pas duré très très longtemps. Au bout d'un moment, les CRS ont reçu l'ordre de charger. Et là, bon, bah, ça a été un petit peu la cavalcade à travers les champs qui entouraient l'usine. C'est ce jour-là, lors de ces événements, qu'un jeune lycéen, Gilles Totin, a trouvé la mort en essayant de fuir lui aussi devant les CRS. Et est tombé dans la Seine et s'est noyé.
Le 10 juin, la CGT a commencé, la CGT avec le Parti communiste, ils ont commencé à appeler à la reprise. Et il y a eu les événements de Flins, où un jeune, pour échapper à la police, s'est noyé et est mort. Et la CGT n'en avait pas parlé. J'avais le tract des camarades de VO qui racontaient bien, qui prenaient position clairement par rapport à la position de la CGT qui voulait, suite aux accords de Grenelle, faire reprendre le travail. Donc je me suis dit, c'est pas possible qu'on dise rien. Je suis monté sur le wagon, j'en menais pas large, mais j'ai lu l'édito des camarades. Je crois que tout le monde a écouté dans le silence. Et il paraît qu'après, à la fin, j'ai été applaudi. Mais bon, je suis redescendu, j'étais quand même assez ému.
Dans l'organisation du vote organisé par l'intersyndicale, au résultat, il n'y avait que 45 voix en plus pour la reprise du travail, pour faire sortir les piquets de grève. Ils organisent un défilé de Sochaux à Montbéliard, il y a à peu près 3 km. Ils organisent un défilé, nous on va au défilé, naïvement, et puis en descendant, puisque ça descend un peu, il y a des travailleurs qui rattrapent le cortège, et puis qui nous disent, revenez vite, ils sont en train de fermer les portières. On remonte en vitesse et on s'aperçoit donc de ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit le coup de poignard dans le dos. Et il y a eu des cris, il y a eu des cartes syndicales de déchirées. Ça a duré jusqu'à minuit, si t'es mieux, tu vois. Le lundi, donc, c'est le 10 juin. Hein? Patatras. Un groupe d'ouvriers de carrosserie, qu'on appelait à ce moment-là, c'est le montage aujourd'hui, dit c'est pas possible, on peut pas reprendre avec, on n'a pas fait 3 semaines d'occupation avec si peu de résultats. Et ils se mettent en branle et ils rencontrent des ouvriers des autres secteurs et ils disent bon, on attend la tournée, parce que c'est travail de tournée, la tournée de 13 heures, hein. Pour refaire l'occupation de l'usine.
L'attitude de la CGT et du PCF, depuis déjà les quelques semaines que duraient les manifestations étudiantes, n'était rien moins qu'hostile à ce mouvement étudiant. Il y avait des mises en garde permanentes, hein, contre les aventuristes, les gauchistes, les irresponsables, qui avaient parti lié avec le pouvoir. D'ailleurs, c'était pas par hasard qu'au moment où la gauche tentait de s'unir, que justement il y ait des provocateurs irresponsables qui commençaient à saboter cette perspective d'union de la gauche, en quelque sorte.
Vers 2h, 3h du matin, les bruits couraient que les flics étaient arrivés. On a rejoint cette route nationale où il y avait toutes les portières qui étaient occupées par les flics. D'un côté, les gardes mobiles et d'un côté, les CRS. De l'autre côté, les CRS. Et c'est là que la guérilla a commencé. Ça s'est fait par instinct de classe, comme on dit. Hein? On ne voulait pas se faire foutre en l'air par des forces dites de l'ordre. Hein? La guérilla a commencé, c'était par des groupes, forcément que des gars se connaissaient entre eux, hein, qui avaient des groupes, et qui attaquaient, commençaient à attaquer les forces de l'ordre. C'était des affrontements très violents, parce que de 3 heures à 6 heures, c'est les groupes qui faisaient la guérilla, mais à partir de 8 heures du matin, 9 heures, c'était la population travailleuse des alentours qui descendait renforcée. Des affrontements très violents, et forcément, comme c'était pas organisé, tu as des travailleurs, quand ils voyaient une grenade, ils mettaient le pied dessus. Hein, on a eu deux amputations, si c'était mieux. Il y a eu deux morts, mais il y a eu deux amputations. Et au final, il y a eu 150 blessés. Tu vois, le responsable du PCF faisait le tour des mini-barricades, hein, pour dire à ses ouailles, vous allez effrayer la petite bourgeoisie, il faut arrêter. Tu vois. Mais dès qu'il a eu les talons tournés, eh ben même ses ouailles, elles continuaient avec nous à prendre des pavés, si c'était mieux, pour les taper dessus.
La CGT, le 10 juin, au matin, était encore pour la grève, mais à ce qu'on dit, il y a eu la visite d'un député PCF d'Ivry-Vitry qui a dit aux représentants de CGT qu'il fallait reprendre. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un revirement très rapide et la CGT a annoncé qu'elle quitterait l'usine et la grève le jour même et qu'il fallait arrêter. Elle est sortie avec quelques-uns de ses militants, mais bon nombre d'entre eux, peut-être la majorité, sont restés et la CGT l'a payé chèrement après cela, quoi.
Bah, ça a été, en tout cas au Crédit Lyonnais, ça a été quand même une énorme déception dans un premier temps, quoi. Parce que on avait le sentiment que si on avait continué tous ensemble, vu l'importance de cette grève générale, ça aurait permis non seulement d'avoir les revendications, mais peut-être d'aller encore plus loin. Alors ce plus loin, il n'était pas forcément formulé toujours par les travailleurs, mais le sentiment qu'on était en train de se faire avoir avec ces élections et que là, le terrain de la lutte de classe était abandonné et que certainement, on allait tous y perdre des plumes.
Pour autant, la combativité ouvrière n'en restera pas là. L'après 68 connaît encore des grèves de grande ampleur portées par une colère toujours vivace. Celle des cheminots en 1971, du juin français en 72, de l'IP en 73, des banques en 74 et celle des postiers à l'automne de la même année. Le rêve de mai vit encore.
Enfin, je pense effectivement qu'en 1974, la grève des banques qui a démarré au Crédit Lyonnais avait à voir avec mai 68, parce que c'est seulement 6 ans plus tard, les mêmes qui avaient connu 68, ils étaient toujours là, et cette fois, je pense qu'on s'y est mieux préparé, et nous, là, on a réussi à faire que cette grève de 1974 soit vraiment la grève des employés, en proposant un comité de grève, où pouvaient participer tous les travailleurs qu'ils souhaitaient, qu'ils soient syndiqués, pas syndiqués, on n'excluait pas les délégués syndicaux, tous ceux qu'ils voulaient pouvaient y être aussi, mais là on a vraiment créé un comité de grève qui a, dirigé, contrôlé la grève de jour en jour en étant démocratique, c'est-à-dire en laissant tout le monde parler dans les réunions du comité de grève. Beaucoup de grévistes avaient apprécié cette façon non seulement démocratique, mais aussi avec l'impression que c'était vraiment eux qui décidaient de leur grève jusqu'au bout, quoi.
Et ce que je dis toujours autour de moi, c'est que il faut pas se fier à une, quand il y a une période où il se passe rien, ça, un jour ou l'autre, il se passera quelque chose, parce que j'ai appris par les gars qui sont capables d'aller loin, et ils sont capables, quand ils sont convaincus, de se battre plus qu'on le pense, et même nous, dépasser nos, ce que nous, on avait imaginé.
Pour moi, mai 68, ça a été quelque chose de merveilleux. C'est là que j'ai appris à comprendre un peu la société, enfin, essayer de comprendre, et puis j'ai continué à essayer de comprendre, toujours cet élan de fraternité.
De cette grève, moi j'en tire quelque chose d'effectivement exceptionnel, c'est le changement avec laquelle les travailleurs peuvent évoluer, et les discussions qu'on pouvait même pas imaginer auparavant.
Et c'est ça que j'ai gardé dans le souvenir, cette liberté, cet halo de liberté qui nous avait tous touchés, quoi. Et ça, oui.
C'est quelque chose de frappant de voir que les gens, ils peuvent être complètement transformés quand il y a des événements exceptionnels qui se passent. Dans les discussions, on pouvait même refaire le monde, et on ne se faisait pas rentrer dedans en nous disant « t'es complètement utopique comme avant qu'il y ait ces événements ».
Là, j'ai jamais autant discuté ce que c'était que le maoïsme, le trotskisme, et comment pouvait fonctionner une société socialiste. Enfin, et ça, c'était vraiment enthousiasmant.
Ce que j'ai retenu de 68, c'est qu'on pouvait se battre. On pouvait se battre. On pouvait dire merde. On pouvait obliger un patron à venir à une réunion, hein, et que le trois quarts du temps, il nous passait à côté, il nous marchait même sur les pieds sans s'expliquer. Et que là, il a changé son comportement. Ils ont eu peur.
Eh bien, pour moi, mai 68, ça a été, bon, une certaine liberté, mais ça a été surtout une compréhension que le monde du travail, il était plus fort que les patrons.
Le gros regret que moi j'ai, mais comme tout militant révolutionnaire, c'est que ce qu'on a fait à Roussel, c'est pas terrible, hein, on n'a pas fait... mais que ça ne se soit pas passé dans des centaines d'entreprises. Parce que quand même, une des grosses trahisons des syndicats, c'est bien sûr d'avoir signé Grenelle et tout, pour on pouvait obtenir beaucoup plus. Ce n'était pas la révolution, mais surtout, ils ont empêché des centaines de milliers, peut-être même plus, de travailleurs de prendre leurs affaires en main, comme nous on l'a fait, de prendre des initiatives, d'organiser et tout. Ça, c'est une trahison. Ça aurait été un gros acquis pour la classe ouvrière de pouvoir faire ça.
Ça reste quand même une grève générale que j'ai... C'est ça qui a marqué beaucoup, c'était mieux. Que c'était possible. Même que c'est pas déclenché, mais ça a été déclenché par le bas. T'avais tout le monde qui... Enfin, tout le monde. Forte proportion des gens qui étaient... Surtout les travailleurs. Et qui se sentaient maîtres de la situation. Et ça... Ça ne dure pas longtemps, mais c'est quelque chose. Quelque chose.
Surtout, ça a démontré que la lutte de classe, elle existait toujours, que la grève générale, c'était possible. Je le dis souvent, mais avant 68, quand on essayait de convaincre les gens que la société pourrait changer, on nous disait c'est plus possible parce que maintenant on a des crédits sur les bras pour nos maisons, c'est difficile, nanana. Et puis en fait, on a démontré en mai-juin 68 que la grève générale était toujours possible, et même au nombre de grévistes encore plus importante que celle de 1936. Donc de ce point de vue-là, ça a été une leçon de chose pour les révolutionnaires comme pour les autres. Les révolutionnaires, ils n'avaient pas plus prévu que personne, d'ailleurs, le mouvement de mai-juin 68, ce qui nous fait dire que, finalement, même aujourd'hui, 50 ans après, un tel mouvement reste possible.